Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand nous emmène aujourd'hui au temps des croisades. Bonjour Franck.
Bonjour Carole, bonjour à tous. Et pas n'importe quelle croisade, la sixième est sans doute la plus paradoxale de toutes. Quoique, on en a connu d'autres qui n'étaient pas mal. La deuxième, notamment, a été singulièrement détournée. Nous avons la chance de recevoir le professeur Guggenheim, grand spécialiste de cette époque, figure, de cette histoire médiévale et qui connaît particulièrement Frédéric II, cet empereur dont nous allons essayer aujourd'hui de brosser le portrait.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question Facebook de Peintre Arbeau sur les mythes et légendes autour de l'ours.
Un peu baroque votre question, me semble-t-il. Pas plus, à vrai dire, que l'aventure inouïe que je vais vous conter maintenant, celle de la croisade de l'excommunié.
Au cœur de l'histoire, au cœur de l'été, 7 jours sur 7 sur Europe 1.
Franck Ferrand.
Premier rayon du soleil pointe à peine à l'horizon, il miroite à peine sur l'Adriatique en ce 28 juin 1228, mais sur les quais du port de Brindisi, tout est prêt. L'empereur Frédéric II, il a 33 ans, il est également roi de Germanie et roi de Sicile, et vous allez voir que ça n'est pas sans importance géostratégique. Cet empereur Frédéric est là, on peut l'imaginer entouré de ses troupes, l'air décidé, plein d'autorité, en ce matin de grand départ, l'excitation est palpable parmi les hommes en armes. Pour eux, l'Orient est déjà proche, encore quelques jours, et l'on marchera sur cette terre qu'a foulée le Christ, et on la libérera, cette terre sainte. Car, pour ces chrétiens, la nouvelle croisade, la sixième donc, a un caractère d'urgence, un caractère de nécessité. Voilà plus de 40 ans que Jérusalem, qui avait été une première fois délivrée, selon les croisés, en 1099, plus de 40 ans que la ville sainte a été reprise par les musulmans. Une circonstance donne une dimension particulière, un peu étrange peut-être, à cette sainte expédition. Vous l'avez entendu parce que je l'ai dit déjà deux fois depuis tout à l'heure. Frédéric II, qui dirige l'expédition, qui dirige la croisade, a été excommunié. Il a été mis au banc de la communauté chrétienne par le pape. Et là, on peut dire qu'aucune réconciliation n'a été possible avec le souverain pontife. Alors, tant pis, le pape s'entête de son côté. Eh bien, Frédéric fait de même. Ses troupes sont embarquées. Il donne l'ordre de lever l'ancre. Et c'est par sa victoire sur le terrain, pense-t-il, que le monde verra l'arbitrage de Dieu. Pour comprendre comment on en est arrivé à cette situation et à une telle opposition dans la relation entre Frédéric et la papauté, il faut revenir un petit peu en arrière. Ce n'est pas la première fois, loin s'en faut, qu'un pape et un empereur sont empêtrés dans une interminable querelle. Au Moyen-Âge, la séparation entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel n'est pas aussi claire qu'aujourd'hui. La concurrence entre le pape et l'empereur est souvent frontale. Il faut pas oublier que cette Europe, elle s'est bâtie sur les ruines de l'Empire romain et que l'héritage de cet Empire romain, chacun le revendique, aussi bien l'empereur, évidemment, que le pape lui-même. On pourrait presque dire que le pape considère l'empereur comme son auxiliaire, et réciproquement pour certains des empereurs en tout cas. L'étendue, la répartition des territoires hérités par Frédéric a de quoi inquiéter le pape, puisque par son père, l'empereur Henri VI, il a acquis des droits sur la couronne germanique, et par sa mère, c'est la Sicile et le sud de la botte italienne qui sont tombés dans son escarcelle. Donc si vous voulez, d'une certaine manière, on peut dire qu'entre ces états du nord et ces territoires du sud, l'empereur Frédéric tient un peu en serre la papauté, il la tient en étau. Ce qui va, quand je dis la papauté, je parle des territoires pontificaux, bien sûr. Ce qui va cristalliser l'opposition et, disons-le, servir de pomme de discorde officielle, c'est le départ en croisade sans cesse reportée de Frédéric, qui avait promis, mais qui pendant très longtemps ne fait rien. Pèlerinage en armes où l'on risque sa vie pour délivrer le tombeau du Christ ou protéger les fidèles s'y rendant, précise Sylvain Guggenheim, la croisade est un acte de piété, un geste politique et une expédition militaire. C'est vrai qu'il y a ces trois dimensions qui sont concomitantes et qui vont constamment poser problème. Une telle entreprise est incontournable pour un grand souverain chrétien. Frédéric a dû ressentir tôt une certaine pression pour, à son tour, se croiser. Son grand-père, Frédéric Ier Barberousse, est mort en chemin vers la Terre Sainte. Quant à son père Henri VI, au moment où il meurt, il s'apprêtait à partir. Et la croisade, ne l'oublions pas, a un intérêt politique primordial. C'est vrai qu'elle met de l'huile dans les rouages avec, dans les relations avec le pape, mais surtout, elle assoit le prestige, la légitimité du souverain, enfin, ça à condition d'avoir vraiment lieu, à condition que le croisé parte vraiment. C'est en 1215, alors qu'il est couronné roi de Germanie, que Frédéric II prend la croix, c'est-à-dire qu'il s'engage à partir pour la Terre Sainte. Mais ce souhait, tout à fait clairement affiché, a tourné au vœu pieux, parce que d'abord, Frédéric a été très occupé. Il a fallu qu'il affermisse son pouvoir dans les territoires allemands. Les choses ont traîné quand même pendant plusieurs années. Et quand il devient empereur en 1220, il renouvelle son vœu. Or, au même moment, les affaires vont mal en Orient. Une ville égyptienne que les croisés ont prise, Damiette, a chuté. Enfin, elle chute en 1221. Beaucoup regrettent que Frédéric ne se soit pas porté au secours des chrétiens de Damiette. Et la pression à ce moment-là s'accentue sur lui, les relations avec le pape ont tendance à se tendre encore un peu. Néanmoins, l'empereur reste, pour l'instant, il reste loin de la Terre Sainte. Alors il donne des gages au pape, les deux hommes finissent par signer un accord, c'est simple. Si Frédéric ne part pas avant juin 1225, il sera excommunié. À cette période, pour intéresser l'empereur, le pape l'encourage à un projet d'union avec Isabelle de Brienne, qui elle-même est héritière du royaume de Jérusalem. Donc, évidemment, cette prestigieuse couronne va encourager Frédéric à aller secourir le royaume exsangue. Sylvain Gouguenet m'explique « L'union bouleversa le sens politique de la croisade. Frédéric II ne partait plus en Terre Sainte uniquement comme croisé, ni même comme empereur, mais en tant que souverain du royaume de Jérusalem. Désormais, et sauf à abandonner son nouveau royaume, son engagement était à vie. » Seulement voilà, quand arrive l'échéance de 1225, Frédéric demande encore un délai. Le pape le lui accorde sous condition et finalement en 1227, ça y est, l'armée est prête. Le départ a même lieu. Eh oui, mais une épidémie va se déclarer, cette croisade commence très mal et les impériaux vont finalement rebrousser chemin. D'ailleurs, l'empereur Frédéric lui-même est tombé gravement malade. Ça, c'est une annulation de trop. Le pape Grégoire IX, qui peut être assez content de pouvoir saisir ce prétexte du reste, met enfin ses menaces à exécution. L'empereur est excommunié. Je ne sais pas si vous imaginez la gravité d'une telle décision à cette époque, bien entendu, hein. Théoriquement, ça délie carrément les sujets de l'empereur de leur obligation de fidélité. Et ce n'est qu'une des nombreuses conséquences de l'excommunication. Le pape, pour autant, n'obtient pas la soumission de l'empereur. Un an après son faux départ, c'est donc bien un empereur excommunié qui va partir. Frédéric, cette fois, quitte Brindisi pour de bon. Ah ben là, maintenant, on peut être certain que sa croisière ne va ressembler à aucune autre.
Thank you.
Outsiders, un extrait de la bande originale du film de Ridley Scott, Kingdom of Heaven, sur Europe 1. Franck, on vient de le vivre avec vous. Frédéric II a été excommunié et c'est une croisade unique qui débute pour lui.
Vous comprenez bien que ce Frédéric II n'est pas le célèbre roi de Prusse du XVIIIe siècle. Nous parlons bien de ce souverain du XIIIe siècle qui est donc empereur du Saint-Empire romain germanique, qui est en même temps roi de Sicile, personnalité extraordinaire parce qu'il a osé défier la papauté et que le pape, en retour, l'a donc excommunié. Et au moment même où il traverse la Méditerranée pour se rendre enfin en Terre Sainte, je dis enfin parce que ça a été long ce départ quand même, il a constamment reporté son départ, eh bien Frédéric est dans une position très particulière. Il a quand même avec lui 12 000 hommes, dont 10 000 fantassins. C'est pas une énorme armée, mais c'est suffisant. Simplement, il sait très bien qu'en tant qu'excommunié, un croisé excommunié, vous imaginez cet oxymore extraordinaire, ça va être compliqué pour lui. On ne l'attend sûrement pas sur place, à bras ouverts. Et vous savez qu'en Terre Sainte, le pape dispose d'un grand nombre de relais, à commencer bien sûr par les fameux ordres chevaliers, les templiers, les hospitaliers, dont le moins qu'on puisse craindre est qu'ils rechignent à apporter leur aide au souverain. Quant au soutien des barons chrétiens de Terre Sainte, il n'est pas non plus assuré à Frédéric. L'empereur sait qu'il va devoir taper du poing sur la table pour imposer sa légitimité. C'est un défi considérable qui lui est posé, sur tous les plans quasiment. Sylvain Guggenheim m'explique, il ne renonçait pas et avait de puissantes raisons d'agir, s'affirmer en tant que roi de Jérusalem, ça c'est vrai que c'est la dimension la plus temporelle et immédiate de l'affaire, remplir sa mission impériale, et après tout c'est le vœu qu'il avait formé dès l'origine, et assumer ce rôle de champion de la chrétienté, qu'on assigne tout naturellement à l'empereur à l'époque. Après une escale à Chypre, escale que la chronique décrit comme très tendue avec certains grands seigneurs chrétiens, toujours ce problème de l'excommunication bien entendu, Frédéric débarque à Saint-Jean-d'Acre au début de septembre 1228. Alors, évidemment, il a quelques atouts à sortir de sa poche. Et le premier d'entre eux, c'est le lien que depuis longtemps déjà, il entretient avec Al-Kamil, qui est le sultan d'Égypte. Il faut vous dire que Frédéric n'a pas attendu du tout de poser le pied en Terre Sainte pour lancer des négociations diplomatiques avec les musulmans. Il a une façon que certains historiens ont pu juger pacifique d'aborder ce conflit islamo-chrétien en Terre Sainte. Évidemment, les chroniqueurs de l'époque, eux, sont singulièrement désarçonnés. Il y a les pour, il y a les contre, d'une certaine manière, bien entendu. Certains vont entrevoir dans cette démarche des sympathies coupables avec l'infidèle. D'autres vont y observer tout à fait au contraire le fruit d'un esprit de tolérance avant l'heure, porté par un empereur que certains diront agnostique, voire athée. Nous avons tous à l'esprit, quand je dis tous ceux qui ont fait des études d'histoire, le Kantorowicz, hein, bien entendu, ce portrait de Frédéric, tout à fait comme une sorte de personnage nietzschéen, comme une sorte de personnage moderne avant l'heure, que Kantorowicz, dans les années 1920, avait pu faire de Frédéric. Et c'est là, bien entendu, c'est dans cette situation, c'est dans la manière qu'il a eu de relever par la diplomatie cet incroyable défi politique que s'enracine l'image qu'on a de lui. La réalité est assez simple, nous dit en tout cas Sylvain Guggenheim, et j'espère qu'il va nous le confirmer là dans quelques instants. Frédéric est un homme pragmatique, ouvert, il veut avancer vers un accord, il est pressé par les menaces qui pèsent sur ses territoires, et notamment en Italie où ça bouge beaucoup à l'époque. Il n'a pas du tout l'intention de s'éterniser en Orient, il a de bonnes relations, vous l'aurez compris, avec Al-Kamil, avec le sultan égyptien, et il faut pas oublier que lui-même, ayant grandi en Sicile, il est un pur produit de cette remarquable d'ailleurs civilisation sicilienne sur laquelle on reviendra aussi tout à l'heure, il a été marqué par des influences arabo-musulmanes qui doivent faciliter les discussions. Disons-le, ces discussions elles ont quand même tendance à s'enliser quelque peu. Alors que Frédéric a longtemps compté sur des conflits internes qui divisaient ses opposants, Al-Kamil est parvenu à dissiper les ombrages. Et ce qui est assez inouï, c'est que plus Al-Kamil est fort à la tête de ses propres troupes, moins il y a de discorde dans le camp musulman et moins il se montre conciliant dans la négociation. Enfin, c'est assez logique, somme toute. Voilà ce que nous dit Régine Pernoud. Elle dit que pour convaincre le sultan de manifester quelque esprit de conciliation, Frédéric entreprit, je cite, « une démonstration militaire le long de la côte faite par la petite troupe des impériaux que templiers et hospitaliers suivaient de loin pour leur épargner un désastre. Ils chevauchaient toutefois à part pour ne pas mêler leurs troupes à celles de l'excommunié. » C'est quand même invraisemblable cette histoire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr des templiers et des hospitaliers parmi ceux qui soutiennent l'initiative de l'empereur, mais comme cet empereur est excommunié, ben, on va quand même pas non plus mélanger les torchons et les serviettes. Alors, après quelques mouvements menaçants, des haussements de ton et d'épaule, un terrain d'entente est trouvé, le 18 février 1229, on signe un traité, célèbre traité, celui de Jaffa. Cet accord paraît être un succès, du moins pour Frédéric. Il prévoit une trêve de 10 ans, plusieurs territoires sont récupérés par les chrétiens, dont Nazareth et Bethléem. Ai-je besoin de vous expliquer la dimension symbolique essentielle de ces deux villages? Mais surtout, Jérusalem est rendue, à condition que les musulmans puissent accéder à leur lieu saint, ce qui paraît assez naturel. André Illion le souligne, je cite, « Frédéric récupère Jérusalem sans coup férir, par les voies de la diplomatie et de l'amitié, ce que Richard Cœur de Lion n'a jamais pu obtenir malgré la supériorité des armes. » Alors, de là à penser que les territoires chrétiens en Orient seraient définitivement renforcés, le moins qu'on puisse dire est qu'il y a un très grand pas que je m'abstiendrai bien de franchir, car si le traité de Jaffa, selon le mot de Régine Pernoud, est du point de vue politique une manière de chef-d'œuvre, il est certain aussi qu'il a, pour ceux qui savent observer et lire entre ces lignes, des aspects un peu inquiétants et tout du miroir aux alouettes.
Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Reviens dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand.
Sur Europe 1, c'est la suite de la croisade de l'excommunié Frédéric II. Et ça y est, il est arrivé à Jérusalem, Franck.
Et ça, c'est assez extraordinaire. Hein. C'est le moment fort de cette sixième croisade. Parce que grâce au traité de Jaffa, la ville s'ouvre, la ville sainte, hein, Jérusalem, s'ouvre à Frédéric. Et en même temps, c'est un empereur excommunié qui est en train d'y entrer. On est le 17 mars 1229. Bien entendu, du côté du patriarche de Jérusalem, on grince des dents devant ce qui peut passer pour un triomphe impie. Pour l'empereur, aucun rapprochement n'est à espérer du côté du patriarche. Et lors de la brève venue de Frédéric à Jérusalem, on peut dire que chacun des gestes, chacun des actes de Frédéric va être scruté, tout revêt valeur de symbole, avec une charge politique et symbolique très forte. Il est observé, il est épié littéralement. Plusieurs chroniqueurs et commentateurs ressortiront d'ailleurs des aspects tout à fait différents de cette affaire. Ils ont été, c'est vrai, influencés dans leur jugement et dans la relation qu'ils ont faite des événements par leur position. Est-ce qu'ils sont pour le pape ? Est-ce qu'ils sont contre le pape ? En gros. À en croire certains, comme le relève Régine Pernoud, Frédéric II, je la cite, tint à se faire couronner à Jérusalem dans la ville sainte et la cérémonie se déroula de façon singulière. Aucune célébration religieuse. Le pape entra au Saint-Sépulcre, prit la couronne sur le maître-autel et la posa lui-même sur sa tête. Ça vous rappelle rien, ça, entre parenthèses ? On a l'impression d'être évidemment quelques siècles plus tard au couronnement de Napoléon à Notre-Dame de Paris. L'empereur se couronne lui-même avec le moins de formalités religieuses possible. Alors, que cette cérémonie ait eu lieu ou non, on verra ce qu'il faut en penser tout à l'heure, Frédéric a bien porté une couronne ce jour-là, symbole de la réussite de la croisade et surtout signe de sa souveraineté sur un royaume à la dignité en partie retrouvée. De même, en se rendant chez les hospitaliers, Frédéric propose la lecture d'un texte appelé à avoir un large écho. Il est en effet recopié, envoyé, quitte à être adapté aux destinataires dans diverses cours européennes. L'empereur, qui feint la plus grande humilité, concède par exemple avoir trop retardé son départ en croisade, mais il insiste au passage sur sa réussite et sur la faveur divine dont il paraît être l'objet, car si hors d'Ali il devait y avoir, si jugement de Dieu il devait y avoir à l'occasion de cette croisade, Il semblerait que le jugement ait été favorable. Même si, vous l'avez bien compris, la victoire est largement diplomatique. Voyez à quel point tout ça est complexe, subtil. On a presque l'impression qu'on ne peut pas toucher du doigt cet événement qui constamment se dérobe devant l'analyse. Alors, en Italie, le pape, lui, en tout cas, continue d'agiter les ennemis de l'empereur. Il va bientôt falloir quitter Jérusalem. En fait, on peut dire que Frédéric y sera resté 2 jours. Très bref passage, mais dont il a tiré toute la symbolique possible, dont il a extrait le suc, si je puis dire, le même jour, alors que la croisade est en train de prendre fin, le patriarche de Jérusalem jette l'interdit sur la ville. Frédéric II eut beau jeu, de s'étonner, nous dit Sylvain Guggenheim, de s'étonner qu'à peine libérés des musulmans, les lieux saints fussent interdits d'accès. Vous avouerez qu'en effet, ça ne manquait pas de sel. L'empereur rentre en Italie pour reprendre la situation en main. Un traité va être signé avec le pape à l'été 1230, alors Frédéric acceptera diverses concessions, mais il obtient la levée de son excommunication. Il est reconnu roi de Jérusalem. Cette fois, on peut dire que sa réussite, au moins personnelle, est tout à fait extraordinaire, et celle de la croisade de l'excommunié aussi, a posteriori. La pause dans les relations houleuses entre l'empereur et le pape, j'allais dire, je vous rassure, ça ne va pas durer. Hein. Jusqu'à sa mort en 1250, Frédéric sera en butte avec toutes sortes de difficultés. Il s'oppose au Saint-Siège. Il est de nouveau excommunié, même déposé pour ce qui est de la Terre Sainte. On peut dire que là aussi, le succès est de courte durée, puisque dès 1244, Jérusalem sera reprise par les musulmans. Et ça, ce sera le prélude, un prélude au déclin final des territoires chrétiens d'Orient. Est-ce que toutes ces victoires de l'empereur Frédéric n'auraient somme toute été que des victoires en trompe-l'œil? Bonjour Sylvain Guggenheim.
Bonjour.
Beaucoup de questions posées par cet événement singulier de l'histoire. Nous y venons avec vous dans un instant et j'espère que nous aurons beaucoup de réponses.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Sur Europe 1.
Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand.
Vous recevez cet après-midi sur Europe 1 Franck Ferrand, Sylvain Guggenheim, historien, spécialiste du Moyen-Âge, professeur à l'ENS à Lyon et auteur de Frédéric II, un empereur de légende paru chez Perrin, puisque nous sommes à la découverte de la croisade de l'excommunié Frédéric II.
Alors, il faut, Sylvain Guggenheim, que nous revenions sur tout ça. Vous avez, je précise tout de suite, sous-titré votre ouvrage « Un empereur de légende », légende au pluriel, parce qu'il est vrai qu'on a tant et tant dit sur Frédéric II.
Oui, à la fois de son vivant, ses partisans, ses adversaires, et ensuite les historiens, simplement des historiens du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, et encore au XXe siècle. Et du coup, on a comme une accumulation de visions différentes, opposées, qui sont comme ça accumulés au fil du temps.
C'est ça, c'est-à-dire que non seulement les chroniqueurs de son temps ont eu sur lui un regard très différent selon le camp auquel ils appartenaient, mais les historiens qui se sont emparés des chroniques et qui ensuite ont essayé de leur donner du sens, eux-mêmes n'avaient pas du tout le même point de vue. Alors on y viendra peut-être tout à l'heure, il faudra revenir sur ceux qui ont voulu absolument, je parlais de Kantorowicz tout à l'heure, mais ceux qui ont voulu faire de Frédéric une figure particulièrement singulière, immense. Bon, j'ai beaucoup cité Régine Pernoud parce qu'elle en faisait partie, bien entendu. Vous essayez d'adopter une démarche plus pragmatique en quelque sorte, et c'est très bien, parce que ça nous permet d'y voir enfin plus clair sur le sens de cette 6e croisade. Alors, on va essayer de serrer les problèmes. D'abord, pourquoi l'empereur prend-il à ce point son temps et pourquoi remet-il constamment au lendemain le départ vers la croisade?
Il y a une raison essentielle, c'est que s'il part en croisade, il quitte ses royaumes et il n'est pas certain qu'à l'intérieur de ses royaumes, l'ordre continue à régner. Alors notamment en Allemagne, où les nobles, les princes territoriaux sont extrêmement puissants. Et à plusieurs reprises, on a des échanges de lettres entre Frédéric II et le pape, où Frédéric II explique qu'il partira à condition que les grands princes acceptent de l'accompagner, parce qu'il n'a pas confiance en eux. Donc ça, c'est une des raisons les plus importantes de ces délais.
Vous dites, et vous ça vous paraît naturel, ces royaumes, mais pour ceux qui nous prendraient en cours, il faut bien rappeler l'immense étendue des possessions, des territoires de ce Frédéric.
Il a eu de la chance et il n'a pas eu de chance, en fait, parce que son père lui laisse le royaume de Germanie, sa mère lui laisse le royaume de Sicile. Entre les deux, il y a les états pontificaux, à peu près toute l'Italie. Bon, et il va en plus obtenir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par mariage, le royaume de Jérusalem. Donc d'un point de vue technique, à l'époque, gouverner des territoires qui sont aussi éloignés les uns des autres, c'est extrêmement difficile.
Et qui, pour certains, présentent des intérêts divergents de leurs voisins. C'est ça qui est assez étonnant. C'est-à-dire que c'est une mosaïque, finalement, ces royaumes de Frédéric II. On est au XIIIe siècle, au début du XIIIe siècle, il faut le rappeler. C'est très tôt dans l'histoire pour gérer de si vastes étendues.
En effet, c'est très tôt, ce sont des états très différents. En Sicile, il bénéficie de l'œuvre de ses ancêtres normands, donc qui ont construit ce qu'on peut déjà appeler un état, un peu centralisé, pour aller vite. En Allemagne, au contraire, il a affaire à un royaume qui est fait d'une marqueterie de principautés et où le roi n'est qu'un noble parmi les autres, finalement.
Alors, j'ai dit à deux reprises tout à l'heure que le pape prenait prétexte des retards de Frédéric pour l'excommunier. Quelles sont les vraies raisons de cette espèce de bras de fer entre le pape, en l'occurrence Grégoire IX, pour le dernier d'entre eux, et Frédéric II ?
Les vraies raisons sont politiques. Quand la mère de Frédéric II a confié son royaume à la papauté en même temps qu'elle a confié son fils, et le royaume de Sicile est devenu à ce moment-là vassal de la papauté. Donc la papauté a une autorité sur ce royaume. Et par ailleurs, c'est la première fois dans l'histoire qu'un empereur contrôle à la fois l'Allemagne, l'Italie du Nord, ce qui est normal, et la Sicile, c'est-à-dire l'île de Sicile et le sud de l'Italie. Donc la papauté se trouve politiquement, enfin les états pontificaux se trouvent politiquement encerclés. Et c'est quelque chose qui les inquiète énormément. Donc le bras de fer se joue autour de ces questions politiques.
Mais c'est étrange de la part du pape d'utiliser son pouvoir spirituel dans ce débat temporel, si je puis dire, en excommuniant carrément l'empereur.
Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pas la première fois ni la dernière que des papes vont utiliser une sanction spirituelle pour finalement régler un problème qui est un problème politique.
Oui. C'est assez, ça laisse toujours songeur, mais c'est assez fort. Il y a en plus des caractères, parce qu'il ne faut jamais négliger cet aspect-là dans l'histoire. Hein. C'est-à-dire que Frédéric n'est pas du genre à plier, mais Grégoire non plus de son côté. Donc,
Alors, pour autant que les individus jouent un rôle dans l'histoire, les individus et leur entourage
oui, voilà.
Aussi. Mais on a effectivement affaire du côté de Frédéric II à quelqu'un qui a montré tout au long de son règne que ce qu'il voulait finalement, c'était exercer le pouvoir qu'il avait reçu. Et pour lui, un roi qui a un pouvoir, doit l'exercer, doit faire respecter ses droits, doit dominer ses terres. Et en face, il se trouve face à une série de papes à une époque où la papauté est en très forte croissance territoriale, disons, politique, administrative surtout. Alors où les papes sont conscients de leur pouvoir et de leur autorité.
Immense, immense. En ce début de XIIIe siècle, quelles sont les conséquences concrètes d'une excommunication de souverains comme celle-là ?
Alors normalement, l'excommunication, c'est vrai pour toute personne excommuniée, vous met à part de la société. Donc vous ne pouvez plus communiquer avec personne.
Vous faites plus partie de la communauté des chrétiens.
Partie de la communauté des chrétiens. Alors bien évidemment, vous ne pouvez plus rentrer à l'église, vous ne pouvez plus communier. Mais par ailleurs, en fait, ça vous prive de toute relation sociale. Et de facto, pour un souverain, ça délie ses sujets de l'obligation d'y obéir. Du coup, un souverain excommunié risque potentiellement de se retrouver tout seul.
Et c'est pas du tout ce qui s'est passé avec Frédéric. Non seulement il a globalement très bien conservé son autorité sur les différentes parties de ses royaumes, mais il a réussi tout de même à lever une armée, à partir avec 10 ou 12 000 croisés. Enfin bon, on ne peut pas dire que la sanction pontificale l'ait réellement amoindri.
Non, mais c'est vrai, la plupart du temps, quand il y a une sanction pontificale contre un prince temporel, Philippe Auguste a été excommunié,
même chose,
etc.
Oui, voilà, oui.
Je dirais presque, on a l'impression que ça leur fait ni chaud ni froid. En tout cas, ça n'a pas en réalité de conséquences politiques.
Et pourtant, certains ont été jusqu'à dire qu'il était agnostique, Frédéric II. On ne peut pas imaginer au XIIIe siècle un souverain comme celui-ci, agnostique quand même, si
bon. Ce qu'il pensait lui-même, au fond de lui, on n'en sait rien.
Ça.
Ce qu'on peut observer, c'est sa politique. Il a pourchassé les hérétiques. Il a essayé, tant qu'il a pu, de se comporter en individu fidèle vis-à-vis des papes, mais sans aller au-delà de ce qu'il leur devait. Et d'un autre côté, il n'a pas montré, pas manifesté de grandes preuves de piété. On lui doit la construction d'une chapelle, c'est tout. On n'a pas l'impression qu'il soit enthousiasmé par la piété.
Ce souverain frappé d'anathème, ce souverain qui ne fait plus partie de la communauté des croyants, c'est invraisemblable, s'en va avec la croix, libérer la Terre Sainte, et bizarrement, il est accueilli, comment dirais-je, de manière saumâtre. C'est-à-dire que, notamment, les moines chevaliers, que ce soit les templiers, les hospitaliers, etc., ils veulent bien l'aider, mais vraiment du bout des lèvres.
Les ordres militaires, templiers et hospitaliers, en fait, sont des ordres religieux. Donc, l'autorité suprême, pour eux, c'est le pape. À partir du moment où le pape a excommuné l'empereur, même si eux, concrètement sur le terrain, auraient besoin de cette croisade, ils ne vont évidemment pas aider l'empereur. En revanche, il avait sur place l'appui de l'ordre militaire allemand, celui des Teutoniques.
Alors évidemment, sur place, il y a ce coup de théâtre supplémentaire, parce que cette affaire n'est qu'une succession de renversements de situation. On s'attend à la guerre, au carnage, enfin les bonnes vieilles croisades, si je puis dire. Et tout se passe, ou quasiment, de manière diplomatique. Ça, c'est quand même étonnant. Oui. Alors vous dites, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, vous, avec ça, d'ailleurs.
Non, il faut nuancer. Il est vraiment parti pour se battre, parce qu'il est parti avec une armée de 10 à 12 000 hommes. Ensuite, très concrètement, sur le terrain, d'une certaine manière, les circonstances l'ont servi. Al-Kamil a des problèmes avec d'autres chefs
Al-Kamil,
musulmans.
Al-Kamil, c'est le sultan d'Égypte.
C'est le sultan d'Égypte, dont dépend Jérusalem. Et Al-Kamil n'a pas envie d'avoir à se battre, en fait, sur deux fronts. Par ailleurs, Frédéric de lui-même sait que la papauté s'apprête à envahir, elle va le faire, son royaume de Sicile. Donc lui n'a pas intérêt à rester longtemps en Terre Sainte. C'est-à-dire que Al-Kamil et Frédéric II avaient tous les deux intérêt à réaliser un accord. Ensuite, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les négociations n'ont pas toujours été faciles et Frédéric II a même un moment envoyé des armes à Al-Kamil en signe de menace si celui-ci ne voulait pas continuer correctement les négociations.
Ce qui est très étonnant, c'est que le traité de Jaffa, qui est l'accord auquel on finit par aboutir, assez facilement somme toute, n'est pas du tout perçu de la même manière dans les deux camps. Du côté d'Al-Kamil et des musulmans, c'est une concession de circonstances. Du côté de l'empereur Frédéric II, c'est le plus grand traité de l'histoire de l'humanité. Donc.
Évidemment, ils avaient des intérêts. Ils avaient tous les deux intérêts au traité, mais ils n'y voyaient pas du tout la même importance. Frédéric II, ça devait lui permettre de montrer que l'excommunication n'avait plus de raison d'être. Et puis, il avait enfin réussi une croisade. Donc, il a essayé vraiment une œuvre de propagande. Et du côté d'Al-Kamil, on a des documents qui le montrent. Il s'agissait de montrer que la concession n'avait strictement n'avait vraiment pas une très grande portée.
D'ailleurs,
de toute façon, ça devait durer 10 ans.
L'histoire
plus.
Lui a donné raison, Al-Kamil, hein, parce qu'on ne peut pas dire que ça a eu tellement d'influence sur la suite des événements, ce traité de Jaffa. Mais c'est vrai que, du point de vue de l'excommunié, c'était une victoire et que toute victoire est bonne à prendre et à mettre en valeur, bien entendu. Alors ça, c'est l'affaire de la croisade elle-même, de cette sixième croisade un peu particulière. Si vous voulez, dans un instant, on dira quelques mots des autres croisades, Sylvain Gougenem, et puis surtout, on reviendra sur le reste de la vie de Frédéric II, parce que ce serait quand même un peu réducteur de tout ramener à une seule croisade.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Cette semaine, pour bien préparer la rentrée, Europe 1 vous offre de superbes cadeaux. Aujourd'hui, vous jouez pour un iPad Air 2, plus un iPad mini, plus un lot de la marque mythique Tans avec deux cartables ou sacs à dos et deux trousses. Retrouvez-les sur Tans.fr. Valeur de ce lot exceptionnel, près de 1000 euros. Pour tenter votre chance et peut-être gagner tous ces cadeaux, envoyez le code CHANCE par SMS au 7 39 21, 65 centimes plus coût du SMS, ou appelez le 39 21, 50 centimes la minute. Et je vous rappelle qu'il faut trois messages pour jouer. Bonne chance.
Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand.
La sixième croisade au XVIIIe siècle. Nous découvrons Frédéric II cet après-midi sur Europe 1. Vous recevez Franck Ferrand, Sylvain Gougenheim, historien, spécialiste du Moyen-Âge, professeur à l'UNS de Lyon, et cette émission fait beaucoup réagir les auditeurs d'Europe 1.
Et oui, alors je sélectionne quelques questions. C'est Patrick qui nous demande notamment quels sont les rapports entre cet empereur, Frédéric II, et les chevaliers teutoniques.
Ils sont extrêmement liés, Frédéric II.
En deux mots, qui sont les chevaliers teutoniques, d'ailleurs, puisqu'on parlait de ces ordres.
C'est un ordre militaire qui a été créé à la fin du XIIe siècle, qui regroupe presque exclusivement des Allemands. Pour simplifier, on peut dire que c'est l'équivalent des Templiers en Allemagne.
Version germanique, oui. Voilà.
Et il se trouve que celui qui est à l'époque le grand maître de l'ordre teutonique, donc qui dirige cet ordre, Hermann von Salza, a eu d'excellentes relations avec Frédéric II, et il l'a même servi comme diplomate jusqu'à sa mort.
Alors, une question toute simple d'Hubert, mais c'est vrai qu'après tout, il faut la poser. Combien y a-t-il eu de croisades? Et qu'est-ce qui poussait tous ces souverains à partir, à se croiser? La question est claire, mais elle est vaste.
Oui, c'est vaste. Traditionnellement, les historiens, depuis très longtemps, considèrent qu'il y a eu 8 grandes croisades. En réalité, il y a eu beaucoup plus que cela de départ en croisade. Mais pour simplifier, à début pédagogique, je dirais, on en considère 8.
Alors, celle dont on a parlé aujourd'hui est la sixième.
Et la sixième, voilà. Les deux dernières étant celle de Saint-Louis. Qu'est-ce qui pousse des souverains à partir en Terre Sainte? Les motifs peuvent être religieux, parce qu'ils y croient vraiment et ils ont l'impression d'accomplir un devoir vraiment de piété en allant récupérer ou défendre les lieux saints du christianisme. Il y a parfois des ambitions, je dirais plus temporelles, de recherche de gloire, tout simplement, parce que c'est quand même prestigieux de risquer sa vie en allant en Terre Sainte et de revenir. Et puis, parfois, ils y sont obligés par contrainte politique, ce qui a été un peu le cas de Frédéric II.
Oui, là, lui, il est plutôt dans ce cas de figure.
C'est plutôt ce cas de figure.
Alors, est-ce qu'on peut dire, Sylvain Guggenheim, qu'il y a plusieurs phases, plusieurs chapitres dans le règne de Frédéric? Ce personnage, je l'ai dit tout à l'heure, a suscité énormément d'ouvrages. Il a été considéré comme un des personnages les plus intéressants de l'histoire. C'est pas tout à fait le cas en France. C'est vrai que notre historiographie est un peu plus faible sur ce sujet que, évidemment, l'historiographie germanique et anglo-saxonne. Mais tout de même, ce personnage, si l'on devait en retenir quelques éléments pour que nos auditeurs se disent à partir de maintenant, eh bien, je sais en gros de qui on parle quand on parle de ce Frédéric II. La première partie de son règne, d'abord, d'où vient-il en deux mots? Vous nous avez parlé de son père et de sa mère, ce double héritage germanique et sicilien déjà. Hein. Pourquoi sicilien d'ailleurs? Il faut le dire, parce que c'est étonnant.
Pourquoi sicilien? Parce que l'empereur d'Allemagne, son père Henri VI, a épousé l'héritière du royaume de Sicile, la reine Constance, et que par conséquent, donc, leur fils s'est retrouvé à la tête des deux royaumes.
Il faudrait revenir sur les Normands et tout ça.
Alors, Constance elle-même donc appartient à une grande famille normande qui a donné plusieurs rois. Enfin, les Normands arrivant en Sicile au XIe siècle ont transformé ce territoire en royaume et ils ont installé une dynastie.
Alors, quel est le type d'éducation de ce jeune prince?
Ça a été extrêmement difficile. Alors, du coup, d'ailleurs, il y a eu pas mal de fantasmes là-dessus, parce qu'il s'est retrouvé orphelin donc de père et de mère à 4 ans. Il a été confié à un régent, mais dans une atmosphère de guerre civile. Il a été capturé deux fois. Chaque fois, les gens qu'il capture, en fait, ne le menacent pas, mais veulent s'en servir
comme otage,
voilà, pour revendiquer à leur profit la régence. Donc il a eu une enfance, même un début d'adolescence, assez chaotique. Mais il a quand même, il n'a manqué de rien.
Ça a peut-être forgé son caractère.
Ça a dû forger son caractère. Il y a un historien allemand, son dernier biographe allemand, Wolfgang Stirner, qui dit que ça lui a certainement donné une très grande méfiance envers les êtres humains, parce qu'il a été entouré de gens qui ne s'intéressaient à lui que pour des raisons politiques et éventuellement donc y aller jusqu'à le capturer, le mettre à part.
Est-ce que la vision d'une Régine Pernoud, c'est-à-dire la vision d'un souverain relativement cynique et détaché, vous paraît juste? Est-ce que c'est un homme qui survolait la vie en quelque sorte plus qu'il ne le...
Je ne sais pas si
c'est
on
difficile,
peut si on peut dire quelque chose à ce sujet. Si vous voulez, s'il avait été vraiment détaché, je pense qu'il n'aurait pas accompli toute l'œuvre politique qu'il a accomplie. Il bâtit un État en Sicile, il aurait abandonné le trône.
Donc il affermit d'abord son pouvoir, et c'est la raison, nous dites-vous, pour laquelle il va mettre si longtemps à partir en croisade. C'est qu'avant, il veut s'assurer qu'on ne va pas profiter de son absence pour tout dérégler. Parce que c'était le risque de ces croisades, bien entendu. C'est que le souverain quittait le territoire. On l'a très bien vu avec Richard Cœur de Lion, son frère, le prince Jean, etc., bien sûr.
Et dans le cas de Frédéric II, c'était particulièrement vrai, parce qu'en fait, pendant qu'il est enfant, avant qu'il accède à la majorité, donc à sa 14e année, en fait, il y a guerre civile en Sicile, il y a lutte pour le trône en Allemagne, il y a aussi guerre civile, donc ils se trouvent à la tête de royaumes qui sont en guerre.
Alors, après cette longue maturation, si je puis dire, le guerrier, le chef temporel est prêt, il va s'affronter donc au chef spirituel, le pape, dont on a pu mesurer tout à l'heure l'importance également temporelle. C'est la période de la croisade. Là. Ça dure un peu plus longtemps que la croisade elle-même quand même, parce qu'évidemment, il y a toutes les retombées du périple.
Oui, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en 1230, il y a un accord de paix, effectivement, mais les problèmes vont ressurgir. C'est des problèmes qui concernent d'une part le contrôle de la Sicile. Frédéric II entend contrôler l'église de Sicile, donc les nominations des évêques, etc., parce qu'il a le droit en tant que souverain, mais le pape s'y oppose. Et puis, par ailleurs, Frédéric II a d'énormes problèmes en Italie du Nord, où les villes d'Italie du Nord, qui sont très puissantes, veulent le maximum d'autonomie, ce que, en tant qu'empereur, il ne peut pas accepter, et le pape les soutient. Parce que la papauté, en fait, veut affaiblir cet homme qui est dangereux pour elle, encore une fois, parce qu'il contrôle le nord et le sud de la péninsule et qu'il l'encercle.
Ça va être toute la fin de son règne. Hein.
C'est toute la fin, il ne s'en sort pas. Et les 15-20 dernières années de son règne, c'est des années de guerre. D'une certaine manière, je pense qu'il, lui, n'a pas voulu.
Je n'ai pas calculé, d'ailleurs, il meurt à quel âge exactement
52 ans.
Oui, c'est ça, oui. De quoi meurt-il d'ailleurs, Frédéric, pour autant qu'on puisse
le
savoir ?
Il meurt d'une maladie, une mauvaise fièvre. Est-ce qu'il meurt de dysenterie ? Est-ce qu'il meurt de malaria ? Ça, je crois qu'on ne saura jamais.
Alors, quel type de souverain est-ce ? Est-ce que c'est un administrateur ? Est-ce que c'est un homme on a vu qu'il était quand même très bon diplomate. Est-ce que c'est un homme de négociation ? Comment le pourrait-on résumer la figure politique de Frédéric II ?
C'est un vrai homme d'État.
Un homme d'État.
C'est vraiment un homme d'État. C'est quelqu'un qui sait qu'à partir du moment où on lui donne un certain nombre de titres, de fonctions, il doit les remplir, il doit se donner les moyens de les remplir. Donc il est très attentif à faire respecter tous ses droits, à contrôler ses terres, à contrôler la noblesse. C'est-à-dire qu'il entend être pleinement roi et pleinement empereur. Et pour cela, il va se donner des moyens. Et là où il est le plus à l'aise, enfin là où il a le moins de résistance, c'est en Sicile. Et on voit très bien ce qu'il fait en Sicile, où il développe l'œuvre des prédécesseurs normands. Mais il construit il termine la construction véritablement d'un État extrêmement efficace, très bien administré.
Vous parlez de sa postérité, des conflits avec son fils notamment d'ailleurs.
Alors là, c'est encore un autre problème. Quand il quitte l'Allemagne, pour avoir un peu une garantie, il garde le titre de roi d'Allemagne. Et en même temps, donc, il confie le royaume à des régents en attendant que son fils, qu'on appelle Henri VII, devienne majeur. Et quand son fils devient majeur, il porte le titre de roi d'Allemagne. Et donc, mais Frédéric II, lui, n'a pas abandonné ce titre. Donc il y a en fait deux rois d'Allemagne en même temps. Et il va y avoir un conflit entre le père et le fils pour des raisons d'autorité, de jalouse des deux côtés, mais aussi parce que tous les deux se retrouvent enserrés dans les réseaux très complexes de la noblesse allemande et en fait ils n'ont pas vraiment de marge de manœuvre.
On a l'impression que toutes les qualités de ce qui devait être un gigantesque souverain s'achèvent un peu en queue de poisson, pardon, mais ça finit pas très bien tout ça. Quel est le bilan finalement de l'empereur Frédéric ?
C'est ce que je dis un peu à la fin, d'une certaine manière, comme d'autres historiens. C'est-à-dire que c'est à la fois un très grand homme d'État, et si on regarde son bilan, il a échoué. Mm-hmm. Mais c'est quand même un homme qui avait un très grand sens politique, mais il a échoué parce qu'il se heurte à des forces qui le dépassent.
On connaîtra ça sous une autre forme avec Charles Quint plus tard, hein, du reste, c'est un peu
oui,
le même
principe. Oui, d'une certaine manière, oui, tout à fait.
C'est-à-dire de grandes qualités qui néanmoins ne viennent pas à bout de problèmes insurmontables, en quelque sorte.
Exactement, oui.
La Sicile va tomber dans l'escarcelle des Français bientôt.
Oui, la Sicile va tomber dans l'escarcelle des Français parce que la papauté a éliminé, mais jusque physiquement, elle a fait tuer ou emprisonner tous les descendants de Frédéric II et elle va appeler le frère de Saint-Louis, Charles d'Anjou, pour qu'il élimine le dernier descendant de Frédéric II, pour qu'il s'empare de la Sicile et qu'il en fasse un royaume qui reste vassal de la papauté et qui soit fidèle au pape.
Quand Horowitz a voulu faire de Frédéric II un personnage complètement hors de son temps, un personnage qui dominerait en quelque sorte son époque parce qu'il aurait été déjà conscient de certains ferments modernes, etc. Vous n'êtes pas de cet avis, en fait.
Non, il y a beaucoup de traits qui sont médiévaux. Dans sa lutte contre les hérésies, dans son comportement vis-à-vis des villes en Italie, dans son comportement vis-à-vis de la noblesse. Il y a beaucoup de choses qui montrent que c'est vraiment un souverain du XIIIe siècle.
Merci beaucoup Sylvain Gougenel.
Je vous remercie.
Votre ouvrage publié chez Perrin s'appelle Frédéric II, un empereur de légende au pluriel.
Et vous répondrez dans un instant, Franck Ferrand, à la question Facebook de Peintre Arbeau sur les mythes et légendes autour de l'ours.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, Franck, c'est une question via la page Facebook, une question de Peintre Arbo. Bonjour Franck, pourriez-vous nous raconter les célébrations autour du mythe de l'ours dans la culture païenne et ses traces dans notre société actuelle ?
Je pense que c'est une question qui excède un peu mes compétences, hein, je vous le dis franchement. Mais enfin, ce qui est certain, ça c'est une évidence, c'est que l'ours a tout pour devenir un animal sacré. Vous imaginez, il a la force, il a la taille, la puissance contenue extraordinaire, exprimée aussi parfois. En 1923, Norbert Castret, le grand spéléologue, a découvert, dans la grotte de Montespan, on est dans les Pyrénées bien sûr, une statue d'argile d'un ours qu'on a essayé de dater, et ça remonte très loin. Certains disent, vous me permettrez d'être dubitatif, mais certains disent peut-être à 45 000 avant notre ère. En tout cas, on est au paléolithique supérieur. On prêtait et on a prêté dans les différentes civilisations au suif de l'ours, à sa bile, des vertus thérapeutiques. Et vous savez que ses crocs, ses griffes, etc. ont été utilisés comme amulettes, comme éléments de protection contre de mauvais sorts, contre les maladies, etc. Alors, c'est aujourd'hui encore dans les Pyrénées qu'on a tendance à, puisque notre auditeur veut savoir ce qu'il en est aujourd'hui, c'est encore dans les Pyrénées qu'on a tendance à célébrer l'animal. Je pense aux espèces de carnavals qui ont lieu à Prades-Molo, à Saint-Laurent de Cerdan dans les Pyrénées-Orientales. Ce qui est assez intéressant peut-être à noter, c'est la correspondance entre la fin de l'hibernation de l'ours et la célèbre fête de la Chandeleur, la fête des Lumières, la fête des Chandelles, récupérée de haute antiquité, enfin depuis très longtemps par l'Église bien entendu, dans la fête de la Chandeleur, qui pour certains est quand même encore la Chandelours. Et là, le vieux culte païen de l'ours est sans doute prêt à constamment ressurgir. L'ours a tendance à arrêter son hibernation au tout début du mois de février.